Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en direct du Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes partis pour une demi-heure de direct et d'interaction avec vous, toutes vos questions et un couple dont l'optimisme est si puissant qu'il est capable de gravir des montagnes. Elle, c'est une femme hyperactive et truculente qui a décidé d'embrasser absolument tous les métiers possibles. Comédienne, chroniqueuse, écrivaine, mannequin et même Miss France 1987. Lui, c'est un journaliste qui a présenté pendant 33 ans le journal télévisé de la mi-journée sur TF1 et comme il connaît l'univers Miss France un peu mieux que personne, il s'apprête à faire partie des petits chanceux qui seront aux premières loges pour élire la prochaine reine de beauté en direct sur TF1. Bonjour Jean-Pierre Pernaut.
Bonjour.
Bonjour Nathalie Marchais-Pernaut. Bienvenue sur le plateau du Buzz TV.
Merci de nous accueillir.
Un vrai plaisir de vous recevoir. Merci de nous faire l'honneur d'être ici avec nous ce matin. Demain, C8 diffuse en première partie de soirée un documentaire bouleversant baptisé Jean-Pierre Pernaut, La vie d'après. Alors ce récit est bouleversant car avec vos enfants, vous racontez notamment la façon dont vous vous battez en famille contre un nouveau mal qui vous ronge, Jean-Pierre, le cancer des poumons. Déjà, la première question qu'on a envie de vous poser, comment allez-vous ?
Mais je vais bien.
Vous allez bien.
Enfin, je vais comme tous les malades du cancer qui se soignent et qui suivent des traitements qui sont parfois un petit peu lourds. Là, j'ai subi par exemple une radiothérapie de choc. Les nouvelles radiothérapies avec 4 ou 5 séances, avant c'était 40 ou 50. Ça crève, ça crée une inflammation dans le poumon, ça me fait tousser depuis 3 mois. Donc mais quand je suis à l'antenne, c'est marrant, je ne tousse pas. Non, ça va bien.
Voilà,
c'est le cancer, j'en parle, je dévoile, on dévoile avec Nathalie toute cette histoire demain sur C8.
Oui.
Parce que C8 a eu la gentillesse de nous proposer de faire ce documentaire un an après. Pernaut, qu'est-ce qu'il fait ? Que fait sa femme ? Est-ce que c'est lui qui fait la cuisine à la maison ou pas ? Mes nouvelles activités de journaliste, parce que je continue à bosser.
Oui.
Et puis cette découverte de l'année, ce cancer dont j'ai décidé de parler, parce que cancer du poumon, parce que je fume. J'ai fumé pendant 40 ans.
Ouais.
Tout le monde m'a dit, mais arrête de fumer, Jean-Pierre. Mon frangin, qui était médecin, qui est mort d'un autre cancer, lui, mon frangin me disait, mais arrête de fumer, c'est complètement crétin. Et moi, je dis, ouais, mais bon, allez, c'est pour les autres. Voilà, ça n'arrive qu'aux autres, ça m'est arrivé à moi. Donc si ça pouvait inciter quelqu'un à arrêter de fumer, d'en parler, j'aurais gagné.
C'est une démarche admirative que vous faites. Et vous allez comment, Nathalie, aussi? Parce que ce n'est pas toujours évident de faire partie de l'entourage de quelqu'un qui atteint de...
Merci de poser la question, Damien.
Exactement,
c'est très compliqué, ce n'est pas évident. Il faut toujours avoir les reins solides, il faut remonter le moral de tout le monde. Donc, je n'ai pas le temps de pleurer sur mon sort. Donc, j'ai des enfants extraordinaires aussi qui comprennent bien la chose. On ne leur a jamais rien caché.
Lou et Tom.
Lou et Tom, on ne leur a jamais rien caché. Donc, déjà, dû à son premier cancer de la prostate. Donc c'est vrai que pour les enfants, c'est pas évident quand on annonce un deuxième cancer, surtout quand c'est le cancer des poumons. On sait que c'est pas un petit cancer, que c'est quand même un cancer qui est agressif. Mais moi, j'ai toujours des bons présages, donc pour l'instant, j'ai pas fait de cauchemar là-dessus. Mon chéri, tout va bien.
C'est vrai que vous faites pas mal de cauchemars. D'ailleurs, vous en parlez aussi de ces présages de vos anges dans votre livre « Moi, j'y crois ». Le diagnostic est tombé au printemps dernier. Et ce qui frappe dans le documentaire, comme ce qui est frappant là maintenant, c'est cet optimisme à toute épreuve, vous gardez le sourire.
C'est pas de l'optimisme, c'est du réalisme.
Bien sûr.
Moi, j'ai des tas de copains qui ont des cancers de la prostate. Ouais. D'abord, il y a 4 hommes ou 5 hommes sur 10 qui ont un jour ou l'autre un cancer de la prostate. Et qui, d'un seul coup, sont terrorisés. « Ah, j'ai un cancer de la prostate, mon Dieu !» Ben non, ça se soigne, ça s'opère, ça se soigne et on s'en sort très bien. Pour autant qu'on ait fait de la prévention, il y a beaucoup de jeunes encore qui meurent de cancer de la prostate.
Parce que les enfants ne vont pas faire
le
médecin. Voilà.
C'est pas un examen agréable.
Agréable, mais
malheureusement. Mais il faut le faire.
C'est encore un peu archaïque.
Donc simplement.
Moi, j'en parle à mon fils pour qu'il aille faire l'examen, surtout quand son père, ça peut être héréditaire. Mais mon fils, il me dit, mais jamais, maman de la vie, j'irai faire cet examen.
Oui, il a encore votre fils.
Oui, il a 18 ans là, mais il faut faire très attention.
Il faut faire de la prévention tout au long de sa vie.
C'est souvent les enfants jeunes qui partent du cancer de la prostate.
Et puis aussi, c'est ce que Nathalie m'a appris. C'est qu'il faut parler de cette maladie, de ces maladies, parce que les cancers sont multiples, parce que ce ne sont pas des maladies taboues, ce ne sont pas des maladies honteuses. J'ai encore entendu hier à la radio un idiot qui parlait de la mort de je ne sais plus qui, d'une longue maladie. Mais arrêtons cette stupidité. On meurt du cancer, on meurt de la grippe, on meurt du Covid, on meurt de n'importe quoi, on meurt d'un accident.
Mettons des mots sur les mots.
Sinon, si on ne met pas de mots sur les mots, on ne pourra jamais les combattre. Comme les femmes, par exemple, pendant des années, on ne parlait pas du cancer du sein. C'était tabou. Enfin, on a parlé du cancer du sein parce qu'il y a des associations qui se sont dit qu'il faut en parler. C'est magique parce que ça a amélioré la prévention.
Star à nu.
Super.
Arthur qui a fait une excellente Star à nu où j'ai participé à la deuxième. Ouais. Toi, la première, pas pour se mettre tout nu, mais pour
Et pas pour le cancer du sein non plus.
Non, mais parler du cancer masculin. Il parlait des cancers masculins et c'était très
bon. C'était très utile. Sans tabou, sans rien.
C'est utile d'en parler. Et cancer du poumon, les médecins font des efforts. Il y a des traitements. Moi, je suis des traitements. J'aurai la réponse de mon traitement actuel vers la mi-janvier.
Oui.
Bon, il n'y a pas de raison de déprimer avant. Hein.
Bien sûr.
On verra après.
Vous inquiétez pas. En tout cas, on va essayer de vous faire un peu sourire ici sur le plateau du Buzz TV. Je rappelle que nous sommes en direct sur Figaro Live, sur la page YouTube de TV Magazine et sur le figaro.fr. Vous pouvez poser toutes vos questions à Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquet-Pernaut. Est-ce que vous vous sentez isolé lors de vos déjeuners à la mi-journée depuis l'absence de Jean-Pierre? Nous, c'est le cas. On pleure toutes les larmes de notre corps. Est-ce que vous irez voir... Oh, si, un petit peu quand même. Est-ce que vous irez voir Nathalie sur les planches dans sa pièce Les Tontons Farceurs? Dites-nous tout. En attendant, on voit les news médias avec Sarah Lecoeur. Salut Sarah.
Bonjour Damien, bonjour à vous deux.
Bonjour.
Allez Sarah, c'est parti avec les audiences.
C'est parti et c'est France 3 hier qui s'est imposé dans la soirée grâce au téléfilm Le Voyageur. La fiction portée par Bruno Debrandt, qui était d'ailleurs sur notre plateau hier, eh bien 4 800 000 téléspectateurs étaient au rendez-vous, ce qui représente un peu plus de 21% de part d'audience. TF1 est deuxième avec Koh-Lanta, la légende, la saison All-Star. C'était l'épreuve de l'orientation hier soir, vous avez regardé?
Oui, bien sûr.
À fond.
On ne rate jamais un épisode de Koh-Lanta.
Eh bien, vous étiez parmi les 4 300 000 fans et 21% de part d'audience également. France 2 est troisième avec le documentaire consacré à Pearl Harbor. 2,5 millions de curieux comptabilisés et 10% de part de marché. Et en revanche, c'est un flop complet pour M6 qui proposait la mini-série française inédite « L'homme que j'ai condamné » avec Ophélia Kolb. Seulement 900 000 personnes qui ont suivi les deux premiers épisodes de la soirée.
Attendez, je m'adresse aux deux fans de Koh-Lanta. Comment vous avez réagi lorsque vous avez appris qu'il y avait des dîners clandestins dans le jeu d'aventure dont le but est de survivre avec la nourriture qu'on a sur l'île?
C'est bien triste, moi, je trouve. C'est bien triste, surtout... comment il s'appelle déjà? Théoura,
oui.
La légende et tout, qui a été disqualifiée. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi lui, parce que plus on entend des choses, il y a aussi d'autres qui ont mangé et pourquoi les autres n'ont pas été virés.
On saura tout la semaine prochaine.
C'est ça qui est dommage. Ouais. Soit on vire personne, ou soit on vire tout le monde.
Il y a eu des traitements.
Donc il n'y reste plus qu'un. Soi-disant, il n'y a que Hugo qui n'aurait pas mangé.
Il y a eu des révélations qui ont été apparemment qui ont sorti hier dans la presse.
Avec tout ce qu'on dit, mais bon, c'est une très très belle émission. Ah oui, moi j'adore.
Dans votre tendre jeunesse, vous auriez pu y participer, vous, Jean-Pierre.
Nathalie, oui, moi non.
Ah bon, pourquoi vous n'aimez pas?
Nathalie adore ce genre de truc. Moi, j'aime bien regarder tout ça.
Pourtant, on a du poisson aussi. On a un peu les produits du terroir.
J'aime bien parce que ce sont des gens qui se bagarrent, ce sont des gens qui font des choses positives. J'adore en plus Denis et sa manière de présenter cette émission, le montage, l'image. Ça fait rêver, c'est magique. Cette histoire de repas clandestin, bon, c'est dommage.
Ouais. Mais bon, je peux les comprendre parce que moi qui adore manger...
C'était dur cette saison, il paraît. C'était très dur.
C'est un jeu.
S'il y a un restaurant en face, moi je suis désolée, j'y vais.
C'est un jeu, ils ont
triché.
C'est un jeu, ils ont un peu triché, mais bon, c'est pas...
Je peux les comprendre.
Vous êtes pour qui maintenant? Qui vous soutenez?
Alors moi, je suis très amie avec...
On verra qui va gagner la semaine prochaine.
Non, moi je suis très pour mon pote, Laurent Demestré.
Laurent Demestré, oui.
Si jamais c'est pas lui, c'est Hugo.
Ah, Hugo. Laurent Mestre ou Hugo, et vous, Jean-Pierre, vous
Hugo, pensez? Moi, je trouve qu'Hugo a eu un parcours tellement extraordinaire. Ouais. Alors, Claude, Hugo ou ton copain, on verra ça la semaine prochaine.
Claude, qui n'a jamais gagné, hein, et qui a été finaliste combien? Trois fois? Deux
Quatre
fois.
Fois.
Deux fois. C'est ça, quatrième fois.
Quatrième fois, mon Dieu.
Bon, à un moment donné, c'est une belle émission.
Oui, oui. C'est vrai qui marche quand même malgré tout, même si effectivement, il y a de la fiction, une grosse concurrence sur la case du mardi. Alors, on va poursuivre avec une nouvelle qui va vous parler, puisqu'il s'agit de Miss France. On a une bonne nouvelle concernant l'une des candidates.
Et oui, parce que la semaine dernière, moi, je vous racontais que Clémence Bottineau, Miss France 2020, eh bien, sa présence était incertaine au concours Miss Univers qui se tient dimanche 12 décembre à Tel Aviv en Israël. Son test PCR s'étant révélé positif à sa descente d'avion sur le sol israélien. Eh bien, après une dizaine de jours en quarantaine, eh bien, tout va bien, la Guadeloupéenne n'est plus malade et peut donc commencer à répéter le spectacle. « J'ai du mal à y croire », a-t-elle déclaré. « Je n'ai pas bien dormi tant je suis excitée ». Et il faut noter qu'elle avait répété les chorégraphies dans sa chambre d'hôtel toute seule pour ne pas prendre de retard sur ses concurrentes.
C'est une bosseuse de toute façon.
Elle était tellement déçue d'ailleurs de ne pas pouvoir y participer. Au début, elle pensait qu'elle n'irait pas et là, elle peut y aller. C'est vraiment une bonne nouvelle.
Parce qu'elle n'avait pas de bol. Déjà, son année, c'est le Covid. Elle n'a pas pu faire grand-chose. Là, elle arrive pour l'élection de Miss et clac-boum, elle est positive. Donc, mais bon, là,
mais
maintenant...
C'est bien, c'est fini.
Donc ça va être un bon présage. Elle va nous ramener.
Vous savez que Nathalie a été dauphine de Miss Monde.
De Miss Monde, mais vous avez participé à Miss Univers également.
Oui, j'ai fait partie des 10 finalistes, mais à Miss Monde, j'étais 6e dauphine.
Et comment expliquez-vous cette différence de traitement entre Miss Monde et Miss Univers? Vous auriez dû gagner les deux élections,
c'est
Nathalie.
C'est juste
quoi,
un comité complètement différent.
Vous gardez quel souvenir de ces compétitions internationales?
Ah, extraordinaire. Ouais. Vraiment extraordinaire, parce que nous, on était plus de 90 candidates à l'époque.
Ouais.
Et toutes les cultures, les langues différentes, enfin, voilà, c'est extraordinaire.
Vous aviez vu Donald Trump, parce que c'est lui qui a créé l'élection de Miss Univers.
Oui, je sais.
Ouais, vous l'aviez croisé?
Oui, bien sûr.
Et alors, comment ça s'est passé, la rencontre?
Rien spécial. Non.
Rien de spécial.
Pas avec moi.
Juste un regard, bonjour, voilà, et terminé.
Peut-être à peine.
Bon, c'est grave, vous avez quand même vu un ancien président des États-Unis.
Oui, c'est clair.
Alors, je saute sur l'occasion. Jean-Pierre, vous avez été choisi pour être le président du jury de la prochaine cérémonie Miss France, qui sera donc diffusée ce samedi en première partie de soirée sur TF1, toujours animée par un autre Jean-Pierre, Foucault cette fois-ci. Comment votre arrivée dans le jury s'est-elle jouée en coulisses? Vous avez postulé? Comment ça se passe?
Non, pas du
Donnez
tout.
Les conseils.
Pas du tout. Sylvie Tellier, que j'adore, m'a appelé pour me rappeler qu'il y a 20 ans...
Ouais.
Le 8 décembre, aujourd'hui, il y a 20 ans aujourd'hui, j'ai rencontré ma femme.
Ah, c'était il y a 20 ans. Vous fêtez votre 20e
anniversaire. Anniversaire d'un coup de foudre, pendant l'élection de Miss France à Mulhouse. Et c'était ce soir-là l'élection de Sylvie Tellier. Puis après, c'était une longue histoire d'amour entre moi et les Miss France. Avant de connaître Nathalie dans Combien ça coûte, les Miss France venaient toujours faire leur première émission en direct dans Combien
c'est
ça
vrai,
coûte.
Exactement.
Et c'était à chaque fois, au mois de janvier, 11, 12 millions de téléspectateurs. C'était de la folie. La première émission de l'année, Combien ça coûte, toujours produite par De Chavannes, et on était les premiers à faire Miss France. Après, les Miss France sont venues au 13h.
Ouais.
La première interview en direct dans le journal de 13h pendant presque 20 ans.
Ouais.
Et voilà, donc Sylvie m'a proposé d'être président de jury. J'en suis immensément fier. Moi, j'avais été membre du jury une fois. Le président, c'était Alain Delon.
En 2000, c'est ça?
C'était en 2000 à Monaco, le jour de l'élection d'Élodie Gossuin. Puis l'année suivante, j'y suis allé en tant que spectateur. Et Geneviève de Fontenay avait placé une de ses anciennes Miss France à côté de moi. Elle s'appelait Nathalie. On a passé la soirée à papoter. Et on ne s'est pas quitté depuis.
Et apparemment, vous n'avez pas fait que papoter, du coup. Alors, concrètement, Jean-Pierre, quel sera votre rôle lors de cette élection? Est-ce que ce sera favorisé Miss Picardie? On sait que vous avez des attaches particulières.
Non.
Ah, mais je regarde Miss Picardie.
Je ne sais pas, ça va être de m'amuser d'abord avec les membres du jury. De Abel Bent à Silla, je ne sais plus. Enfin, il y en a peu en
vrai. Nesteg.
Oui.
François Allu.
Elle est marrante comme fille, François Allu.
Delphine,
va peut-être
qui est notre ancienne Miss Alsace.
Et puis Delphine, qui elle fait ses 10 ans d'élection,
oui.
Et que je l'adore. Et puis voilà, je suis content d'être dans cette élection, parce qu'il y a eu des critiques contre l'élection de Miss France, critiques de féministes que je ne comprends pas, parce que les seuls pays où il n'y a pas d'élection de Miss, ce sont les pays qui ne sont pas les pays libres.
Ouais.
Donc moi, je trouve que là, on va voir défiler,
mais c'est
défiler
chaque année, oui.
Et se présenter des femmes libres,
oui.
Fières de ce qu'elles font, et pour elles, ça va être génial. Et plein de femmes font des choses extraordinaires après. Bon, Nathalie, qui est comédienne, écrivain, Delphine Vespizer, qui est comédienne aussi, qui écrit, d'autres sont chefs d'entreprise, l'orphelin, Marie l'orphelin, qui est médecin.
Ouais. Enfin, Sonia Rouen, qui est actrice.
Elles font des tas de choses derrière. Donc ça, c'est une mise en avant de femmes formidables qui sont d'abord des femmes libres, et c'est ça qu'il faut défendre.
Nathalie, c'est sexiste, le concours Miss France? Vous qui avez participé, ou pas du tout?
Pas du tout. Pas du tout, non, moi j'ai adoré, j'ai fait ce que je voulais, c'était, voilà.
Ça a été un tremplin pour vous aussi?
Ah mais grave, pourtant je voulais pas me présenter, moi c'est mon père qui m'a forcé à me présenter.
Ah oui,
oui, c'est mon père, mais moi j'ai dit, mais hors de question, je trouve ça ringard, jamais je vais me présenter, c'était pour Miss Alsace. Et donc pendant plus de 3 jours, j'ai fait la tête avec mon père, et un soir, ma mère, elle monte dans ma chambre, et elle me dit, écoute, arrête de faire la gueule à ton père, fais l'élection de Miss Alsace, de toute façon, tu ne risques pas de gagner, on rentrera à la maison, et ton père sera content. Et j'ai écouté ma mère, je dis, bah oui, t'as raison. Donc, j'ai accepté de faire l'élection de Miss Alsace. Je fais Miss Alsace, je gagne Miss Alsace. Et avant de faire Miss Alsace, on signe des contrats pour dire que quand c'était élu Miss Alsace, t'es obligé de participer à Miss France.
Ah.
Donc, j'ai été Miss Alsace et ça a été une obligation que je participe à Miss France.
Vous étiez dans le tunnel, vous ne pouviez plus ressortir.
Je ne pouvais plus ressortir, mais tant mieux. Parce que comme
vous avez remercié votre père finalement après?
Oui, après. Ah, oui. Et j'ai passé 6 ans auprès de Madame de Fontenay, vraiment des années extraordinaires.
Bon, c'était des années extraordinaires. Il n'y a pas que Miss France dans la vie, figurez-vous, parce qu'on va parler aussi du documentaire qui sera diffusé demain en première partie de soirée sur C8. C'est tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Jean-Pierre Pernaut, La vie d'après, c'est le documentaire que C8 diffuse donc ce jeudi en prime time. Vous dévoilez votre quotidien après avoir lâché les rênes du journal télévisé. Vous vous mettez en retrait prêt à savourer voilà, votre vie de semi-retraité, hein, puisque vous êtes toujours à l'antenne sur LCI.
Et toujours actif.
Et toujours actif, toujours. Ouais. Il y a aussi le magazine, on en parlera après. Et 4-5 mois plus tard, malheureusement, vous apprenez que vous êtes atteint d'une grave maladie après avoir récemment vaincu le cancer de la prostate. Cette fois-ci, ce sont vos poumons qui sont atteints. Lorsque vous entendez ce mot cancer qui revient une nouvelle fois dans la bouche des médecins, vous réagissez comment ?
Ben, je réagis en disant, bah, zut, c'est idiot. Et puis, mais Nathalie m'a appris à ne pas avoir peur du mot cancer.
Parce qu'elle parce que je me souviens, dès que tu es rentrée à la maison, tu me dis, bon, ben, j'ai la petite bébête. Je dis, quoi, la petite bébête? C'est un cancer.
Vous ne dites pas cancer tout de suite, quand même. Hein.
Non, la toute première fois.
Ouais. Nathalie m'a appris quand même à ne pas avoir peur du mot, parce qu'elle-même a souffert d'un cancer très grave il y a quelques années. Elle en est sortie. Il y a 20 ans, jour pour jour, en discutant quelque part au musée de l'automobile de Mulhouse, elle m'a parlé du cancer. C'est la première fois qu'on me parlait ouvertement du cancer. Elle m'a appris qu'il fallait le voir en face. Elle a écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle « Le cancer en face » pour regarder la maladie en face pour mieux la combattre. Et c'est vrai que tous les médecins disent qu'eux font des efforts, font des recherches, Moi, j'admire immensément les médecins qui m'ont soigné et qui soignent tous les malades du cancer. Mais le malade lui-même, il doit aussi essayer de garder la pêche. Que garder la pêche, tu me le dis souvent, c'est 40 à 50% de la guérison. Plus peut-être, bon, j'en sais rien.
Largement plus,
mais donc, voilà, donc ne pas avoir peur du mot cancer. Mais celui-là quand même, poumon. J'ai toujours pensé que ça ne pouvait arriver qu'aux autres. Certes, je fumais comme un pompier.
Surtout, fumer comme un pompier, c'est combien de
paquets
deux paquets par jour pendant 50 ans. Ah oui, donc c'est beaucoup.
Et donc,
vous avez arrêté là.
Oui, au bout de là. J'ai arrêté. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que je pensais que c'était impossible d'arrêter de fumer. Physiquement, je n'arrivais pas. J'ai arrêté 2 heures de fumer, j'avais envie de fumer, comme tous les gros fumeurs. J'y arriverais pas. J'ai peur d'arrêter de fumer. Et moi, j'ai arrêté le 17 juin, le jour où mon chirurgien m'a dit, bon, allez, fumez plus parce que je ne peux pas opérer un fumeur parce qu'il y a trop de risques d'infection. De ce jour-là, je n'ai pas fumé une cigarette.
T'es obligé, sinon il n'y avait pas l'opération.
D'abord avec un patch pendant 15 jours jusqu'à la date de mon opération. J'ai été opéré le 5 juillet. Je n'ai pas refumé depuis le 17 juin. Et après le 5 juillet, je n'ai jamais remis ni patch ni rien. Je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas envie de fumer. Donc, on peut arrêter de fumer d'un seul coup.
Il faut juste armer de volonté, en fait. C'est ça, la morale de l'histoire. Et vous, Nathalie, quand il vous parle de la petite bébête, sous-entendu le cancer, vous réagissez comment à ce moment-là?
Je sais qu'il a vu que je n'ai pas fait la même tête. Ouais. Je n'ai pas fait la même tête du tout par rapport à la prostate, parce que le cancer des poumons, c'est quand même violent. Mais je me suis dit, de toute façon, on n'a pas le choix et on va se battre puis on va y arriver parce qu'il n'a pas le choix. Il est obligé, il a 2 enfants derrière, il a sa petite femme, donc il n'a pas le droit de nous lâcher. Donc,
c'est interdit, Jean-Pierre.
Donc c'est interdit, sinon je l'étrangle. on a des médecins extraordinaires, de la technologie extraordinaire.
Mais les enfants, ils sont dans le même état d'esprit que vous, c'est-à-dire qu'ils ont la tête sur les épaules et ils disent on va se battre.
Oui, évidemment. Bon, après, je ne suis pas avec eux, s'ils pleurent dans leur chambre, ça je ne sais pas. Je ne leur mens jamais, donc je dis chaque étape, comment ça se passe, quels sont les résultats. Ouais. Donc, ils savent qu'ils peuvent me faire confiance. Et si vraiment... Il faut faire attention, parce que des fois, il y a des médecins aussi qui disent « Vous n'avez plus qu'un mois à vivre, ou 2 mois à vivre, faites attention. » Moi, j'ai reçu plein de messages où on a dit ça à certaines personnes et ça fait 4 ans, ils sont encore là.
Bien sûr.
Donc, les pronostics sont ridicules pour vous. Voilà, exactement. Même moi, quand j'étais malade aussi, en 98, on ne me donnait pas un mois à vivre.
Donc, mais les médecins n'ont pas donné de pronostic. Ils disent simplement, vous avez un cancer, on va faire tel et tel traitement. Et on verra après. Donc, les traitements sont en cours. On verra bien. Ouais. Pour l'instant, il y a une première tumeur qui est partie. Hop, on l'a opérée. Merci aux chirurgiens qui a des doigts en or. À l'hôpital Pompidou. Ils sont géniaux. Tout le monde est géniaux. Parce que quand on se plaint dans un hôpital, vous avez toujours une infirmière ou une dame qui fait le ménage qui vous dit « Allez, monsieur Pernod, oh !» la dame à côté, elle souffre davantage que vous, alors un peu de sourire. Donc, elle regonfle les gens. Le personnel hospitalier, il est formidable. Ils ont plein de boulot, ils manquent de moyens. On sait qu'ils font des services qui sont innombrables, ils sont crevés, mais ils sont là pour aider les malades. Et puis, les médecins qui se battent, c'est fabuleux. Mais sur le regard des gens, il y a quelque chose de différent. Quand j'ai dit que j'avais un cancer de la prostate, plein de gens m'ont téléphoné en disant « Ah, toi aussi !» Mais avec un petit sourire en coin. Ouais. Du style, cancer de la prostate.
On sait très bien comment ça va se passer pour vous.
Bref, donc j'ai appris plutôt à en rigoler à ce moment-là. Cancer du poumon, les gens ne répondent pas à la même chose. Ouais. Les gens répondent oh merde. Ouais. Donc c'est vrai que le regard des autres est plus compliqué. Oh merde, c'est vrai, mais bon.
Ça se guérit un cancer du poumon ?
Bien sûr.
Oui.
Ouais.
Mais
bien
oui.
sûr. Ouais. Il y a tellement de cancers différents qu'on ne peut pas savoir avant si on va guérir, si on ne va bien pas sûr. Guérir. Donc il faut croiser
le
les doigts, il faut
ça profiter peut mettre de. Ça du temps. Ça, après, ce qui est toujours embêtant, c'est les traitements qui sont lourds. Donc après, on ne sait pas s'il fait de la radiothérapie, enfin s'il va faire de la chimiothérapie. La chimiothérapie, c'est très long, c'est dur, c'est fatigant. Donc c'est toutes ces étapes-là qui sont extrêmement difficiles à passer. Et c'est là qu'il ne faut pas baisser les bras, parce que c'est là souvent que les sujets baissent les bras. Et là, il ne faut pas les baisser, parce que là, il faut booster,
ce
qui peut permettre de guérir et de s'en sortir.
Et il faut se dire, vive la vie. Comme le dit si bien Dominique Lagroux-Semper, ma compagne, ma complice du journal de 13h, dans son livre, vous l'avez reçu, elle m'a beaucoup aidé aussi, parce qu'elle est passée par là avec Claude Semper, son mari, qui est mort du cancer, et elle le dit dans son livre qui s'appelle Après l'orage, édité chez Flammarion. Elle est venue chez vous, elle en parle remarquablement bien.
Elle est formidable.
Et elle est formidable, et c'est vrai que vive la vie, elle a
une pêche d'enfer aussi.
Elle croque la vie à pleines dents, parce qu'elle a vécu le pire.
Complètement, c'est une leçon. On va du côté des internautes, Sarah.
Oui, j'ai plein de fans sur le chat. Jean-Pierre, vous nous manquez tellement dans le JT. Merci pour toutes ces années merveilleuses. Si fier d'avoir pu apparaître dans l'un des sujets du 13h pendant le confinement. Quelqu'un qui est apparu. Ouais. Et je vais lire cette question de Charlotte. Vous avez raconté dans une interview vous êtes fait opérer sous une fausse identité. Comment cela est-il possible, demande-t-elle.
On peut toujours, quand on entre dans un hôpital public ou privé, s'inscrire sous une fausse identité pour essayer de préserver son dossier médical, parce que les hôpitaux de Paris, par exemple, sont tous reliés entre eux. Donc il y a des milliers et des milliers de gens qui ont accès aux dossiers médicaux des hôpitaux de Paris. Donc quand on entre sous un faux nom, Dupont, Durand, je ne sais pas quoi, bon, mais c'est tout. Martin. Après, il y a un lien, le médecin sait qui c'est, parce qu'en fait, il y a la date de naissance, il y a la carte vitale.
Oui, à un moment, on donne la carte vitale.
Je suis inscrit sous ma vraie identité, mais le dossier médical est inscrit sous un autre nom.
Mais alors, c'est quoi votre nom? C'est Will Smith?
Non, je ne sais pas.
Michael Jackson.
Ce que j'adore, c'est les infirmières qui disent « Alors, monsieur Durand, ça vous manque pas trop le 13h ?»
Vous aviez peur des fuites, ça?
Non, pas du tout. J'avais pas peur des fuites, mais j'ai pas peur des fuites, parce que généralement, quand on a vraiment des maladies, les journaux à scandale ne les trouvent jamais. Ils racontent que des conneries. Donc, nous, on a des couvertures de journaux pratiquement tous les 15 jours depuis des années.
On était séparés tout le temps.
On a divorcé, on est mort, on a eu des cancers, mais jamais les bons. Donc les journaux à scandale, les machins, etc., qui se disent journalistes, ça me fait rigoler.
C'est vrai que vous avez l'air d'être très séparés, là, ça se voit d'ailleurs. Ça transpire sur ce plateau, il y a de l'animosité entre vous. En juillet dernier, donc, hein, on le rappelle, vous êtes fait opérer donc, du poumon.
Non, pas encore le cœur. Le cœur, ça va encore. Le cœur, on l'a fait quelques
jours. On a fait des petits trucs quand même. On a nettoyé la tuyauterie quand même.
On va peut-être pas tout cumuler non plus, Jean-Pierre.
Non, on peut tout faire en même temps. On va attendre un peu.
C'était le poumon, hein, je rappelle. Donc en juillet, en août, donc on vous découvre effectivement que le deuxième poumon est malade. Comment vous tentez donc de ralentir la maladie? C'est des séances de radiothérapie, c'est ça?
Ben ça, les médecins de l'hôpital Pompidou m'ont fait une opération. On a enlevé un lobe du poumon à droite. On peut pas enlever des lobes pulmonaires de l'autre côté parce qu'après, il n'y a plus de poumon. Si on n'a plus de poumon, on meurt.
C'est un peu compliqué.
Donc la deuxième moyen de traiter, c'est la radiothérapie. Maintenant, des séances qui s'appellent la radiothérapie stéréotaxique, où on fait des séances des bombardements massifs, d'un rayonnement massif pendant 4 ou 5 séances. Autrefois, c'était 40 ou 50. Oui. On ne sent absolument rien, on écoute de la musique, on est là pendant 40 minutes, avec un robot qui se balade au-dessus.
Franchement, c'est blanc, c'est joli, il est allongé.
On écoute de la musique, on ne ressent rien.
Il y a des vitres avec de l'herbe en haut, et j'ai dit, on dirait un spa, c'est pas
bien. Non, mais c'est un peu ça, sauf que c'est crevant, ça fatigue, et depuis un mois et demi, ça s'est terminé début novembre, mes 5 séances, mais je suis encore fatigué, parce que ça continue à travailler, etc., dans le corps, et on saura à la mi-janvier si ça a marché ou pas. Donc, en attendant...
Vous n'y pensez pas de cette date butoir de la mi-janvier?
Non, pas du tout. On a tellement de choses à faire. Ouais. Miss France, mon boulot à LCI.
C'est vrai.
Vendredi, mon émission en direct, comme toutes les semaines. Non, j'ai plein de travail. Je continue à bosser.
Et vous sentez que votre état évolue ou bien il est stable depuis qu'on vous a découvert cette maladie?
Je pense... Je ne me suis jamais senti malade.
Fatigué, beaucoup fatigué.
Mais jamais malade.
Et vous l'accompagnez comment, vous, Nathalie, au quotidien? À quoi ressemble le quotidien de Nathalie Marquet auprès de Jean-Pierre Perdeau? Vous êtes aux petits soins? C'est vous qui allez le réveiller?
Non, je laisse dormir, justement. Je ne vais pas le réveiller.
Oui, c'est vrai.
S'il peut dormir, je le laisse dormir un maximum. Non, mais des fois, je prépare ses petites tisanes qu'il est obligé de prendre.
Avec du gingembre,
t'aimes
bien.
Avec du gingembre, bah oui, c'est important. Non, c'est... non mais le gingembre,
pas,
c'est surtout... Bah, tu rigoles, quoi.
Ça aide. On réveille un peu.
Mais non, mais pas ce côté-là.
On sait tous les vertus aphrodisiaques.
Il faut en prendre des kilos avant. Je t'en donne pas assez là-dessus, chérie.
Non, c'est drôle. Alors aussi, tiens, à propos de kilos, pour les gens qui veulent arrêter de fumer, j'ai pas pris un kilo.
Vous n'avez pas pris un seul kilo ?
Ah oui.
Non, j'ai pas pris un kilo. Alors peut-être qu'il y a la maladie derrière.
On pourrait 10 km par jour.
Il y a peut-être la maladie derrière, mais c'est vrai qu'on peut arrêter de fumer. Sans avoir de problème physique derrière, bon, le cancer déjà, ça suffit. Mais voilà, j'ai arrêté de fumer.
Moi, j'ai arrêté de fumer, j'ai déjà pris 3 kilos. Hein,
oui, mais toi, c'est
vous avez arrêté de fumer
il y a 8 jours.
Il y a 8 jours aussi. C'est à cause de la maladie de Jean-Pierre, vous avez dit aussi, c'est le moment d'arrêter.
J'avais une toux qui était chronique. Ouais. Et puis, c'est surtout mon fils qui déteste la cigarette. Et je me dis, merde, il voit déjà l'image de la cigarette pour le cancer des poumons pour leur père. Donc, je me dois pour mes enfants ne plus fumer. Donc, tout d'abord, c'est terrible de dire ça, hein, parce que malheureusement, c'est con, hein, mais j'adorais fumer. Ça me détendait.
Oui. C'est
un vrai plaisir.
C'est pour ça que des millions de personnes fument.
Et voilà, c'est terrible de dire ça, hein, d'être indépendante à cette merde, parce que c'est de la merde. Et là, ça fait 8 jours que je n'ai pas touché une cigarette, donc je me retiens, parce que c'est un peu dur en ce moment. Mais je le fais surtout pour mes enfants. Avant.
Moi, je m'interroge sur les campagnes anti-tabac. Campagnes anti-tabac, on parle beaucoup du tabac. Oui. Et quand on parle beaucoup du tabac, un fumeur ou un ancien fumeur n'a qu'une envie, c'est de refumer.
C'est vrai.
Je me souviens avoir arrêté de fumer il y a une vingtaine d'années. Ouais. J'avais arrêté pendant 6 mois, j'étais presque sûr de mon coup. Et un soir à la télévision, il y a eu un spot d'une campagne anti-tabac où on voyait des gens qui écrasaient des mégots. Ouais. Et voir ça, je me suis levé, je suis allé au bureau de tabac, j'ai acheté des clopes.
C'est fou.
Et depuis, je m'interroge sur l'utilité des campagnes anti-tabac. Quand je n'entends pas parler de tabac, je n'ai pas envie de cigarette. Ouais. Quand je vois partout des trucs interdits de fumer, je n'ai qu'une envie, c'est d'en allumer une.
Mais parce que vous êtes anticonformiste aussi.
C'est mon esprit de contradiction.
Bien sûr.
Il y en a beaucoup. Dès que tu dis interdit, t'as envie de foncer. C'est comme pour les enfants, tu leur interdis.
Non, moi, mon chirurgien me l'a dit gentiment. Si vous n'arrêtez pas de fumer, je ne pourrais pas vous opérer. Salut.
Et du coup, vous avez décidé d'arrêter de fumer. Vous avez été sage. Ouais. Sarah, on retourne du côté des internautes.
Oui, nous sommes toujours en direct et je vais poser cette question de Patrick. Pourquoi avez-vous réservé vos confidences à C8 et non pas à TF1?
Ah oui, tiens,
comme 7 à 8. C'était le genre d'émission où vous pouviez parler
parce que
de ça.
Parce que C8 me l'a demandé et pas TF1.
Ah, TF1, vous
appelez TF1 m'a pas demandé, n'a pas eu l'idée de faire un magazine un an après. Ils avaient fait un très beau magazine de Michel Izard l'année dernière.
Au moment de votre
départ. Je suis parti le 18 décembre. Il y avait déjà eu un magazine de C8. Et C8 s'est dit, tiens, on va faire un an après Jean-Pierre Pernaud. Et c'est pour ça que j'ai décidé.
Ils sont venus me voir déjà, parce que moi, je suis très C8.
Ils sont venus voir Nathalie, qui est chroniqueuse chez eux.
Oui, de temps en temps, quand je suis.
Et donc, j'ai accepté parce que TF1 ne l'a pas demandé. Mais TF1 m'a demandé quelques mois après, quelques semaines après, de faire un magazine avec Nathalie dans 50 minutes Inside. Ouais. C'est passé samedi dernier, j'en ai parlé aussi. Ouais. Donc, il n'y a pas de concurrence de chaîne là-dessus.
Quand on est atteint d'une telle maladie, alors c'est vrai que vous êtes réaliste, hein, vous l'avez rappelé à plusieurs reprises, mais est-ce que malgré tout, on pense souvent à la mort, malheureusement, à quelque chose qui pourrait arriver, ou pas du tout, on le met sous le tapis, et pour l'instant, on vit au jour le jour. Comment ça se passe?
Non, moi, je ne le mets pas sous le tapis. Lui, il va vous répondre, je le mets sous le tapis. Ouais. Mais je n'y crois pas du tout, c'est pas vrai. Ouais. Parce qu'il y pense, parce que des fois, il dit des petites phrases. Ah, il faudra penser ça si jamais un jour, je dis, mais c'est quoi cette phrase-là que tu es en train de me dire? Non, ça n'existe pas et je ne veux pas l'entendre. Mais bien évidemment, on est obligé d'y. On sait que la mort. De toute façon, comme il dit Jean-Pierre, on meurt tous un jour.
Bien sûr.
Mais de toute façon, on meurt, mais c'est pour mieux renaître.
Exactement.
Et Bernard Tapie disait, vous allez mourir, on va tous mourir.
Bien sûr.
L'essentiel, c'est que ce soit
la vie
le
est une maladie. Hein.
C'est que ce soit le plus tard possible. Bon, on
verra bien. Votre
moi, je suis à 72 ans.
En prenant la voiture, accident de voiture.
J'ai 72 ans. J'ai des tas de copains qui sont morts à 20 ans, à 25
jeunes,
ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, des amis, de ma famille. Moi, j'en ai 72, j'ai une maladie.
Pas encore.
On verra bien.
Chaque fois, il se rajoute des années. Mais chaque fois, on fait une émission.
Bah oui, vous
vieillissez. Bientôt, il va me dire 73, 74, 74.
Vous aimez vous vieillir. C'est peu commun, ça, d'habitude, on se rajeunit.
J'arrondis.
Non, mais arrondi. Tu vas faire 72.
Ouais,
t'as pas encore.
Alors,
on a le temps.
Nathalie aussi, on parle de votre pièce de théâtre. Vous êtes en tournée dans toute la France avec les Tontons Farceurs, dans laquelle vous donnez la réplique notamment à Philippe Chevalier. Vous serez à Mulhouse le 9 janvier, vous serez à Deauville le dimanche 16 janvier, vous serez également à Lille, là où votre fils étudie, je crois, le 4 février.
Oui.
Quel rôle vous tenez, vous, dans cette histoire?
J'ai un double rôle, moi, dans cette histoire. Donc, je veux être une chanteuse qui veut travailler au glamour. Ça se passe dans les années 60. Et donc, c'est une pièce un peu à la Audiard. Donc, c'est un vaudeville. Et puis, il y a un meurtre qui se passe. Donc, on ne sait pas qui a tué. Donc, il y a toute une énigme là-dessus avec des claques qui portent dans... des portes qui claquent dans tous les sens, pardon. Ouais. Et donc, je ne peux pas vous dire mon deuxième rôle. Mais ce qui est bien, c'est que c'était la première fois que je n'avais jamais rien dit à Jean-Pierre, ni pour les répétitions. J'ai jamais voulu lui montrer quoi que ce soit parce que je voulais pour une fois, lui montrer toute la surprise. Et il a adoré.
Et là, j'ai découvert sur scène.
Ouais.
Je chante, je danse.
On le voit dans le documentaire d'ailleurs que vous allez assister à la pièce.
Toujours. Parce qu'on a écrit deux pièces ensemble il y a 10 ans maintenant déjà. Piège à Matignon et puis Régime présidentiel. Piège à Matignon a cartonné dans toute la France pendant 6 ans.
7 ans
avec l'année à Paris. Régime présidentiel pendant 2 ans. Ouais. C'était un vrai vaudeville au bout de 2 ans. Ne se renouvelait pas, alors que Piège à Matillon, c'était une pièce de chansonnier sur l'actualité, mais qu'est-ce qu'on a rigolé, sur le rôle d'Internet dans la vie privée et politique et publique d'un homme politique.
Et on a changé plein
et
de
on a écrit ça en 2011, quand c'était pas du tout à la mode. Ouais. Aujourd'hui, les scandales sur Internet, les scandales sur les réseaux sociaux,
cette
pièce, elle a vu un succès considérable pendant 6 ans. Donc on a envie d'en écrire une troisième, ça va venir, c'est en cours.
Ouais. Et j'aimerais qu'il monte sur scène avec moi.
Et vrai que je monte sur scène.
Ce serait pas mal.
Bon, on verra bien. Il sera très, très bon comédien.
Vous devez déjà faire Danse avec les stars.
Danse avec les stars, c'est un joke.
Il y a des questions.
Ah, c'est une blague.
Oui, c'est une blague. Oh, c'est un journaliste. Le journaliste me dit, la journaliste me voyait déjà mort.
C'est-à-dire
que j'ai eu une question d'un journaliste qui me dit, donc tout est terminé pour vous. Je dis, non, je vais faire Danse avec les stars l'année prochaine. Mais c'était pour rire. C'est sûr que je ne vais pas faire Danse avec les stars.
Mais pourquoi pas, Jean-Pierre?
Physiquement, je ne tiendrai pas quand même.
C'est pas possible.
Mais vous ne pourriez pas avoir des défis comme ça, non? À la télévision, là, vous avez.
Mon défi, c'est mon magazine de presse écrite qui continue.
C'est vrai. Au cœur des régions. Numéro va bientôt sortir.
On est en train de boucler le quatrième numéro qui sera bouclé lundi et qui sortira en toute fin d'année. C'est une passion formidable au cœur des régions. C'est un news magazine de défense du terroir et de défense des régions. À la fois, on montre que la France est belle. Ouais. Que les régions sont riches, que nos traditions, on y reste attaché, mais que ces régions sont malmenées. Là, par exemple, dans le dernier numéro qui est encore en vente en ce moment, on parle de l'interdiction des voitures, de 70% du parc automobile en ville dans les 2 ans, ce qui est une hérésie totale. Bien on ne peut pas changer 70% du parc automobile. Les gens qui ont voté cette loi, ils sont totalement incohérents. Donc, quand une loi est stupide, il faut l'enlever. Donc, il y a plein d'associations d'automobilistes qui disent « Attendez, arrêtez cette hérésie. On ne peut pas changer 70% du parc automobile et on ne peut pas interdire 70% des Français de venir en ville. » Parce qu'en ville, on a besoin d'y aller pour aller à l'hôpital, pour aller, etc., qu'à la campagne, il n'y a pas de transport en commun. Donc les gens qui pondent ce genre de loi sont des citadins qui ont des bicyclettes.
Allez, on retourne une dernière fois du côté des internautes.
Dernière question, tout le monde me pose cette question. Que pensez-vous de Marie-Sophie Lacaro à la Côte du Trésor? Est-ce que vous la regardez toujours?
Mais je la regarde toujours, pas tous les jours, j'ai repris des habitudes de Parisiens qui, à 13h, ne sont pas toujours devant leur télé. Quand je la regarde, je la regarde toujours avec plaisir. J'ai tenu moi-même à passer le relais avec elle l'année dernière. J'ai tenu à ce qu'elle soit présente dans mon dernier journal.
C'était il y a un an et moins 10 jours, c'était le 18 décembre.
Il y a un an.
Donc
elle tient la baraque remarquablement bien. Et je trouve ça superbe ce qu'elle fait. Donc c'est magnifique. Les audiences sont toujours au top. Mes correspondants en région. Un peu mes bébés tous, donc c'est un peu la famille.
C'est encore les
famille. Oui, c'est encore... Donc je retrouve un petit peu tout ce que j'ai créé, les opérations qu'on a créées, puis elle en crée de nouvelles, donc c'est bien. Et là, elle a créé, par exemple, un concours des recettes de Noël, je trouve ça super.
C'est génial.
Ah, oui.
Et donc voilà, donc Marie-Sophie et 13h, ça va très bien.
Et vous, Jean-Pierre, vous êtes encore à la télévision, sur LCI, on vous retrouve pour les nostalgiques de Jean-Pierre Pernaut. Chaque vendredi, 13h30, on vous retrouve dans Jean-Pierre Pernaut et vous et votre argent. Est-ce que clairement, c'est... Comment dire, l'émission qui s'adresse à tous les radins de France ou pas du tout?
Non, c'est
vous
ça.
Vous parlez argent, on essaie
de faire
des économies.
L'ambiance de Combien ça coûte, que les plus anciens ont connu, qui a duré 20 ans en prime time, 10, presque 20 ans en prime time. C'est pour ça qu'on m'appelait le PLD du PAF, le présentateur longue durée. Entre le 13h et Combien ça coûte, c'était pas mal. Donc c'est un peu l'ambiance, l'état d'esprit de Combien ça coûte. L'émission est dirigée par François-Xavier Pietri, qui est chroniqueur économique et ancien rédacteur en chef économique à TF1. Et avec toute une bande de chroniqueurs formidables, on montre parfois les anomalies dans la vie quotidienne, dans notre portefeuille. L'argent public gaspillé, la Cour des comptes qui dénonce une centaine d'organismes publics qui ne servent à rien et qui sont toujours là. C'est idiot, le lendemain matin, quand on voit le rapport de la Cour des comptes, on devrait les supprimer, ces 100 organismes.
Vous avez envie de les dénoncer.
Donc on dénonce un peu des aberrations. Donc ce n'est pas les radins, ce sont des gens qui payent des impôts, parfois beaucoup d'impôts. La moitié des Français qui en payent, on est le pays du monde où on en paye le plus. Et parfois, on ne comprend pas pourquoi des administrations manquent de moyens, alors que d'autres ne servent à rien.
Nous, on a beaucoup de moyens ici au Buzz TV, je peux vous assurer, en tout cas, les moyens de vous faire parler. Ce sera l'objet de notre dernière rubrique intitulée « En toute franchise ». Alors, on va vous poser une série de questions. L'idée, c'est que vous y répondiez avec le plus de franchise possible, comme vous l'avez fait jusque-là. Allez, on va commencer par vous, Nathalie. Quel est le plus beau souvenir de votre carrière?
Le plus beau, c'est difficile, mais moi, quand j'ai rencontré Chirac.
Chirac, ah oui, à l'occasion de votre arrivée en Alsace, lorsque vous avez été élue Miss France en 1994.
Non, je revenais, il n'était pas encore président de la République.
Il était Premier ministre.
Premier ministre. Et il était tellement charmant, adorable, j'avais tout un discours, quand je l'ai rencontré, j'avais tout un discours à lui dire. Et puis il me voit, il me tend les bras comme ça, et il me fait « Oh, mais vous êtes jolie !» Il me prend dans ses bras, il me fait la bise, il me reprend comme, il me regarde comme ça, il me fait « Vous êtes tellement jolie, je vous refais 4 bises !» Et moi, je suis restée là, comme ça, et j'ai oublié tout mon discours.
D'accord, voilà. En fait, ça
et après, je sais qu'il m'a émis dans sa biographie, quand même.
Et vous, votre meilleur souvenir de carrière?
Il y en a tellement.
Il y en a beaucoup.
Oui, il y en a tellement. Ça va c'est parfois des souvenirs qui ne sont pas bons. C'est la présence à New York 2 jours après le World Trade Center. Ouais. C'est une rencontre avec Indira Gandhi en Inde avant que je présente le 13h. Ça a été une interview formidable avec l'abbé Pierre quand j'étais jeune journaliste à Amiens. Ouais. Plein de choses de la vie de Tchernobyl, enfin, tout ce qui se passe, des Coupes du Monde de foot.
Les grosses actualités.
Dans ma vie professionnelle, il s'est passé tellement de choses. Ouais. Parfois dramatique, la mort de Johnny, les obsèques de Johnny.
Bien sûr.
Enfin voilà, plein de choses.
Et votre pire souvenir maintenant, Nathalie, pour commencer, de carrière, un mauvais.
Pire souvenir.
Vous en avez ou vous n'en avez pas? Parfois, vous n'avez pas eu des illusions, on vous le souhaite, attention. Ouais,
Non, moi ça va.
Non, tout va bien.
Professionnellement, je n'ai pas de pire souvenir parce que j'ai eu une carrière formidable. Il n'y a pas d'accro, il n'y a rien du tout.
Bien sûr.
Personnellement, mon pire souvenir, c'est quand le toupie m'a dit « c'est un cancer ». Ben ouais.
Lequel, le premier ou le deuxième ?
Les deux.
Les deux.
C'est autre chose.
On peut comprendre, effectivement. Une autre question, si vous n'aviez pas été comédienne, par exemple, ou mannequin, ou écrivain, comme c'est le cas aujourd'hui, quel métier vous auriez pu exercer, vous, Nathalie ?
Médecin,
vous auriez aimé être médecin ?
Ah oui.
Tous
mes amis me disent docteur Nathalie.
Docteur, c'est vrai que c'est pas faux. Ouais. On a un peu envie de vous appeler docteur Nathalie. D'ailleurs, je remonte la couverture de votre livre, mais c'est vrai que vous donnez quand même des conseils assez épatants pour justement surmonter les maladies.
J'ai toujours de bons conseils. Et puis là, j'ai été très bons conseils aussi pour lui. Ou tout d'abord, c'est aussi un message. Il ne faut jamais s'arrêter sur ses premiers médecins. Ouais. Si on a un doute, n'ayez pas peur de montrer vos dossiers à un autre médecin, ce qu'il n'a pas voulu faire au démarrage. Ouais. Parce qu'au premier diagnostic, il disait qu'on ne pouvait pas l'opérer. Et moi, je dis, il fallait qu'il fasse de la radiothérapie directe. J'ai dit, moi, je pense qu'il faut aller voir un autre avis et on verra. Et lui, il dit, non, j'ai plutôt confiance à mes médecins, ce qui est normal. Je n'ai pas envie de tout recommencer, les examens et tout ça. Je dis, si, on va faire comme ça. Et on a été voir Pompidou et eux, ils ont dit qu'il était opérable. Donc voilà, c'est le truc que je sentais, que c'était, il fallait absolument qu'il fasse son opération et pas directement de la radiothérapie.
Tu avises avec ma fille, toutes les deux voulaient une opération.
On voulait à fond, mais moi, pourtant, ta fille qui est médecin, par contre, qui est de bons conseils aussi, mais moi qui ne suis pas médecin, j'avais, on m'a tous dit
docteur
que c'était
Nathalie.
Des bons conseils. Voilà.
Moi, j'aurais voulu être avocat, vous n'avez pas posé la question, mais je vous le dis.
Ah, vous auriez voulu être avocat? Mais pourquoi? Pour défendre la veuve et l'orphelin?
Oui.
C'est vrai, vous avez... Mais c'est un peu ce que vous faites.
D'où mon envie de piquer des coups de gueule, je les pique encore dans mon magazine au cœur des régions, comme dans le journal de 13h.
Vous avez fait des plaidoyers assez mémorables, il faut le reconnaître, dans votre
présentation. Non, mais.
Je me souviens.
Pendant le confinement, j'avais relevé quelques incohérences.
Oui, c'est vrai.
Et que certains médias, ne relevaient pas. Je ne comprenais pas pourquoi. Les petits fleuristes étaient fermés et les jardineries étaient ouvertes. Donc je sors chez moi.
Pourquoi il faut vacciner les gendarmes ou les policiers?
Ma petite fleuriste, d'ailleurs, s'en est pas remise. Elle a fermé cette boutique, elle n'a pas pu rouvrir depuis. Il y a eu des incohérences sur les masques, c'était de la folie. Donc j'ai dit toutes ces incohérences. Il y en a encore aujourd'hui, là, par exemple, dans les aéroports en ce moment. C'est un scandale. Il y avait un reportage magnifique à 20h montrant les 5 heures d'attente, le bins épouvantable à Roissy. Ouais. C'est très, très mal organisé. C'est contrôlé avec des gens qui arrivent d'Afrique du Sud en passant par un autre pays d'Europe, mais qui eux, ne sont pas contrôlés. Il y a un gros truc un truc à revoir.
J'ai vu le même reportage.
Le reportage d'hier. Des incohérences comme ça ne sont pas normales. Et puis, des coups de gueule, je continue à en piquer dans mon magazine. Il y a une rubrique qui s'appelle Mon deuil. J'ai 2 pages pleines de coups de gueule tous les 2 mois.
Personne ne peut rien vous dire.
Alors, vous n'êtes pas sans savoir que l'élection présidentielle se tient dans quelques mois.
Ah bon?
Admettons, vous êtes élu, et l'un et l'autre, chef de l'État. Quelle est la première mesure que vous prenez?
Déjà, s'il est chef d'État, je divorce. C'est ma première
mesure. Mais pour quelle raison, Nathalie? Vous avez peur du pouvoir?
Non. Non, elle aime pas la déco.
Elle n'aime pas la déco de quoi?
De l'Élysée.
Oh mon Dieu. Vous savez que vous avez la main sur la décoration, je crois. Vous pouvez rénover. Enfin,
oui. Ouais, mais c'est de l'argent public, on ne va pas y toucher.
Non, non, on ne peut pas. Non, non.
Bon, Jean-Pierre, une idée de la, je peux, la première mesure?
Je supprime les administrations qui ne servent à rien, et il y en a beaucoup.
Oh là.
On fera la liste une autre fois. Et j'arrête tout de suite le programme éolien, qui est une catastrophe pour les paysages français.
Ah oui. Alors vous êtes engagé comme Stéphane Bern contre les éoliennes.
Ah oui. Mais comme la plupart des gens qui vivent à côté des éoliennes, les gens qui sont pour les éoliennes vivent généralement dans des régions où il n'y en a pas.
Bien sûr.
Et quand on regarde économiquement, c'est une catastrophe. Ouais. C'est un truc que je ne comprends pas.
Et ça détruit le paysage aussi.
Ça détruit les paysages et je ne comprends pas économiquement. Il y a un truc derrière. Il faudrait l'étudier. Ouais. Il y a des spécialistes qui doivent l'étudier plus que moi. Je ne comprends pas pourquoi les écolos, par exemple, défendent le programme éolien. Ouais. On a vu qu'en Allemagne, ça aboutit à une catastrophe écologique. Ouais. Puisque aujourd'hui, les Allemands polluent 10 fois plus que nous. C'est invraisemblable.
Allez, on va terminer avec cette question. Qu'est-ce qui vous déplaît le plus dans votre caractère et dans votre apparence physique, Nathalie?
Dans mon caractère,
dans votre caractère, qu'est-ce qui vous déplaît le plus?
Que j'ai toujours raison.
Ah, bah ça, mais... ça va les chevilles? Attendez, parce que moi j'ai plus trop de place, ça gonfle. Et dans votre apparence physique, est-ce que vous avez des petits complexes ou non?
Oui, mes mollets.
Vos mollets?
Oui,
ah bon, est-ce que vous avez les chevilles?
Des mollets de footballeur.
Ah, vous avez des mollets de footballeur,
footballeur.
Oui, voilà. Mais ça, c'est le sport, ça, il faut arrêter le sport, Nathalie. Et vous, Jean-Pierre?
Je ne sais pas, en ce moment, elle a arrêté de fumer il y a 8 jours, je peux vous dire que ce n'est pas toujours facile à la maison.
Mais ça balance.
Non, oui, mais ça balance, ça va bien balancer quelque part. Non, je ne sais pas. Non, physiquement, je le trouve très beau. Et
Mais vous l'êtes, vous l'êtes. Vous n'avez pas pris un seul gramme.
Je me suis toujours foutu un peu de ça. Je me suis toujours moqué de l'apparence et de tout ça. J'ai été moi-même pendant tous ces 30 ans au journal.
Vous pouvez vous regarder à la télévision.
Les gens me disent pourquoi vous mettez les chemises bleues, parce que j'aime bien le bleu. Je suis désolé.
Et ça vous va autant, ça illumine le temps.
Ça, bah, peut-être, si j'avais aimé le rose, ça aurait été rose.
Et puis c'est parce que Nathalie ne sait repasser que des chemises bleues. Moi, elle me l'a dit, c'est comme ça. C'est ça. Merci beaucoup, Jean-Pierre Pernaud. Merci.
Merci à vous
d'avoir accepté notre invitation.
Merci,
c'est un régal de vous avoir ce matin sur ce plateau. Merci Sarah pour les questions internautes. Alors je rappelle que vous êtes sur C8 demain dans le documentaire Jean-Pierre Pernaud, la vie d'après. C'est à 21h15 donc sur C8. On vous retrouve également chaque vendredi à 13h30 dans Jean-Pierre Pernaud et vous et votre argent. Nathalie, vous êtes sur les planches en tournée dans toute la France avec votre pièce Les Tontons Farceurs. Et je rappelle aussi le titre de ce livre qu'il faut absolument lire, qui donne le moral et plein d'optimisme. C'est Moi j'y crois. C'est aux éditions Guy Trédaniel. Merci encore.
Et l'élection de France samedi.
Ah, et l'élection de Miss France samedi. Je savais que j'allais en oublier.
Voilà.
Je savais. De toute façon, il y a tellement d'activités. Jean-Pierre, et votre magazine aussi qui arrive dans les kiosques pour le 4e numéro dans très peu de temps. L'élection, effectivement, c'est sur TF1 ce samedi. Merci encore à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Et nous, on se retrouve demain avec deux Buzz TV. L'un qu'on va enregistrer, qui sera diffusé vendredi. C'est quelqu'un que vous allez bientôt croiser. Il s'agit de Jean-Pierre Foucault, que nous recevrons demain. Ce ne sera pas en direct. Donc envoyez vos questions dès maintenant. Vous le découvrirez le vendredi, donc de midi à midi et demi. Et on se retrouve évidemment en direct cette fois-ci demain avec un artiste, un chanteur qui va incarner un programme sur France 3 qui s'appelle Chantons Aznavour. Ça tombe bien, il lance un album de reprise avec les chansons de Charles Aznavour. Il s'agit de Dany Briand qui sera avec nous demain sur ce plateau. En attendant, on vous souhaite une excellente journée et on vous dit à demain pour un nouveau Buzz TV.